Donc voilà, je suppose que c'est là-bas qu'il faut passer normalement. Ouais. D'accord. Voilà. Alors merci pour ces exhortations et que le Seigneur touche nos cœurs et nous aide à écouter, à mettre en pratique ce qu'on entend. Pas seulement à l'entendre, pas seulement à recevoir en disant voilà c'est bon, mais aussi de tirer instruction parce que le Seigneur parle et le Seigneur agit dans les vies. Notamment, il agit concernant la question du moi, n'est-ce pas? Et c'était un peu le thème aujourd'hui, en partie en tout cas, de ce que je voulais dire, que la position du moi qui s'interpose entre Dieu et son œuvre dans nos vies. Mais j'aimerais vous poser juste quelques questions de connaissance. Qu'est-ce qui peut dire sans regarder quelle était la dernière église dans l'Apocalypse à laquelle Dieu s'est adressé? Parmi les sept églises. Laodicée, c'est très très bien. Très très bien, Laodicée. Est-ce que vous connaissez quelque chose sur Laodicée que Dieu a pu dire sur cette église? Quel était l'enseignement particulier? Voilà, tu es ni froid ni bouillant, tu es tiède. Et c'est un avertissement pour chacun d'entre nous, à d'autres, il faut lire les sept églises, c'est extraordinaire le message que Dieu donne, c'est un message d'amour, un message de tendresse, mais un message très clair. Et la parole de Dieu est très très claire. La parole de Dieu n'est pas là pour le flottement, en laissant, en disant, voilà, je vais voir comment ça va se passer dans l'avenir, je vais voir si ça se confirme, je vais laisser le temps agir, n'est-ce pas? Ça, c'est un principe évolutionniste, c'est un principe athée. Matérialiste. On va laisser le temps faire l'œuvre, mais le temps fait que ça se dégrade. Vous laissez n'importe quel objet, quel objet vivant, par exemple, je veux dire quelque chose comme un fruit, comme un légume, et même un objet strictement matériel, inerte, eh bien, vous le laissez dehors avec le temps, et on verra de la dégradation, on ne verra pas de l'amélioration. Et le Seigneur est pour la réponse claire, nette et précise, en disant maintenant je réponds. Dans les psaumes, il est dit, je crois que c'est le psaume 95, si aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que l'endurcissement du cœur, c'est de dire soit non, soit je vais voir, je vais laisser le temps passer. Ça, c'est l'endurcissement. Et le Seigneur veut agir aujourd'hui dans nos vies. Il veut qu'on prenne des positions pour lui, qu'on réponde, mais pas seulement qu'on réponde, mais qu'on se lève dans le cœur et qu'on décide de marcher avec lui. Donc dans chapitre 3 de l'Apocalypse au verset 15, le Seigneur dit, je connais tes œuvres. C'est-à-dire, je connais tes comportements, je connais tes œuvres, je sais ce que tu fais. Pas seulement les bonnes œuvres. Mais aussi, tes comportements, tes réactions, je les connais. Et vous savez que vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu. Quoi que vous fassiez, même si les hommes ne le savent pas, même si vous avez réussi à dissimuler toute votre vie des choses, Dieu le sait et il connaît. Il connaît tes œuvres, il sait d'où tu viens, il sait ce que tu as fait, ce que tu as connu. Et il sait aussi ce que tu as caché. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Et c'était probablement une église qui donnait l'impression d'être bouillante, qui donnait l'impression de bien fonctionner. L'apôtre Paul a exhorté l'église de Laodicée, en même temps que l'église de Colosse. Et c'était une église qui avait reçu donc cet enseignement très riche de l'apôtre Paul, quel privilège d'être directement instruit par l'apôtre Paul. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas et que le Seigneur savait. Et on peut rentrer dans une église, avoir l'impression que c'est bouillant. On peut entendre certaines prédications, avoir l'impression que c'est bouillant. Et le Seigneur sait si c'est bouillant ou si c'est pas bouillant. Et la raison pour laquelle on peut être tiède, ce que Dieu reproche à l'église de Laodicée, premièrement, c'est le fait d'être tiède, ni froid ni bouillant. Il y a deux raisons pour lesquelles l'eau est tiède, c'est trivial, c'est banal ce que je dis. C'est soit qu'il n'y a pas d'eau chaude, c'est-à-dire on tourne le robinet d'eau chaude et puis ça coule pas très chaud, ou soit qu'il y a de l'eau froide qui est mélangée avec. Et je pense plutôt que c'est le cas souvent dans nos situations personnelles que nous avons de l'eau froide et de l'eau chaude qui coule. Au lieu d'avoir les choses du Seigneur qui alimentent notre vie et qui sortent de nous, il y a aussi de l'eau froide qui vient. Et ça donne un mélange qui est tiède et que le Seigneur n'apprécie pas. Ça ne veut pas dire que dans la vie chrétienne, il n'y a que les choses de Dieu qui doivent être faites. Bien sûr, strictement parlant, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être toujours avec sa Bible, en train de prier, être avec la Bible du matin au soir et du soir au matin. Il y a les choses nécessaires de la vie, il y a les activités, il y a le travail. On ne doit pas arrêter son travail. On doit continuer à vivre. Mais c'est ce qui coule dans nos cœurs. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui coule dans nos cœurs? Est-ce que nous avons cette alliance avec Dieu? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que c'est du mélange? C'était pour les Juifs quelque chose d'abominable dans la loi de Dieu instaurée par Dieu que le mélange. Vous savez, on ne devait pas mettre sur un tissu usé, on ne devait pas recoudre avec du tissu neuf. On ne devait pas réparer une outre percée en mettant du cuir neuf. C'est quelque chose que Dieu ne voulait surtout pas. Il a instauré, il a instruit son peuple à distinguer le sacré du profane et à faire la différence et à choisir ce qui était sacré. On ne devait pas mélanger les choses. Mais dans notre culture, on a balayé le sacré et tout est devenu profane. C'est-à-dire qu'on mélange les choses. On peut mélanger des paroles douces avec des paroles amères. Et pourtant, Jacques, l'apôtre, nous dit clairement, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Une eau, une source fait-elle couler de l'eau douce et de l'eau amère? Et ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. Et c'est la même chose avec nous. S'il y a de l'amertume dans le cœur, comment peut-il y avoir la place pour la douceur de Dieu? Et la douceur de Dieu, c'est un des constituants du fruit de l'esprit. Et on ne peut pas être doux et amer en même temps. On ne peut pas dire du bien d'un frère ou d'une sœur et dire du mal d'un autre frère ou d'une autre sœur. Ce n'est pas possible. C'est d'être dans la tiédeur, c'est d'être dans le manque de position. Dieu préfère les gens qui disent clairement « je suis contre Dieu » parce qu'au moins ceux-là sont clairs et cohérents. Et ce que Dieu veut, c'est les gens qui sont cohérents et qui sont honnêtes, qui disent « moi je suis contre Dieu, j'ai rejeté Dieu, je ne crois pas en Dieu ». Parce que leur vie est conforme à ce qu'ils déclarent. Mais si nous déclarons que nous sommes chrétiens, que nous appartenons au Seigneur, que nous voulons la vie éternelle sur la terre et au-delà, eh bien nous devons avoir une vie cohérente avec ce que nous déclarons. Et ça doit être ça qui anime nos cœurs, n'est-ce pas? Qu'il n'y ait pas de mélange, qu'il n'y ait pas cette incompréhension. Encore une fois, Dieu reprochait au peuple d'Israël dans l'Épître aux Romains, que c'est à cause de vous que mon nom est blasphémé. Et les hommes et les femmes blasphèment contre Dieu parce qu'ils n'ont pas de modèle de ce que c'est la vie de Dieu. Quand on regarde nos comportements, quand ils regardent nos comportements, on fait souvent honte à Dieu plutôt que d'honorer Dieu. Et c'est pour ça que les gens blasphèment, ils disent « il n'y a pas de Dieu ». Parce qu'ils ne voient pas le modèle. Certains, bien sûr, refusent de voir ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un qui se dit au Seigneur. Mais dans d'autres cas, c'est parce qu'il n'y a pas de démonstration. Ici, donc, Dieu reproche d'être ni froid ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est vraiment le rejet total. Je ne peux plus supporter. Alors on a la vision d'un Dieu d'amour, et Dieu est certainement un Dieu d'amour. Mais il est plus qu'un Dieu d'amour. Et dans l'amour, il y a cette, comme on a dit tout à l'heure, cette correction, cette façon de montrer la vérité. Dieu ne peut pas supporter de mélange. Et donc il rejette. Il rejette son peuple. Le peuple d'Israël a été rejeté à bien des occasions quand le peuple a rejeté Dieu. Et on doit savoir ce que ça veut dire si on s'est engagé dans les eaux du baptême publiquement et qu'on rejette Dieu après. Eh bien, Dieu nous rejette. Ce n'est pas une vengeance, c'est pas dire tu me rejettes donc je te rejette. C'est que Dieu est cohérent et Dieu est clair et que lui, il n'y a pas de, en lui, il n'y a pas de tiédeur. Il n'y a que la grâce, l'amour, le pardon, mais seulement pour ceux qui le désirent et qui sont cohérents aussi. Il dit à l'église de Laodicée, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et c'est vrai que nous, dans nos sociétés matérialistes, on a beaucoup, actuellement en tout cas encore, on a beaucoup de raisons de pouvoir vivre, beaucoup de façons par lesquelles on peut vivre heureux, se faire du bien. Les plaisirs sont à disposition pour la plupart des gens. Et en fait, il y a quelque chose en nous qui fait qu'on n'a pas besoin de Dieu, souvent. Je me rappelle un ami qui me disait, mais moi je me sens très bien, je suis heureux de vivre, je suis bien comme je suis. Pourquoi devrais-je demander un changement? Pourquoi Dieu devrait-il changer ma vie? Et la raison pour laquelle il se sentait bien, c'était quelqu'un qui faisait exactement ce qui lui plaisait. Il avait trouvé un travail qui correspondait exactement à ce qu'il aimait, qui était une passion pour lui. Et sa vie de tous les jours était l'accomplissement de sa passion, qui était son travail. Et donc, il était heureux, comme ça. Évidemment, la vie lui a montré plus tard qu'il avait besoin de Dieu et qu'il y a quelque chose de fondamental qui manquait dans sa vie. Mais on pense souvent qu'on est bien, qu'on n'a pas besoin. On pense souvent qu'on est chrétien, on s'est engagé, on est passé par les eaux du baptême un jour. Et maintenant, on n'a plus rien à faire. On s'est publiquement donné au Seigneur. Et puis maintenant, on peut juste attendre qu'on meure, comme ça on va aller dans la présence du Seigneur. Et là, il est dit que ce n'est pas le cas. Tu dis, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. La chose que le Seigneur touche en premier dans nos vies, lorsqu'on vient à lui, c'est l'aveuglement que nous avons. Dans Jean chapitre 9, il a guéri un aveugle de naissance. Et quand il a guéri cet aveugle, les pharisiens étaient très en colère, bien sûr, ils ont fait une enquête, etc., comme vous savez, mais ils étaient très en colère. Mais le Seigneur a dit, Jésus a dit lui-même aux pharisiens, il a dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais c'est parce que vous dites, je vois, que vous êtes dans le péché. Et ils étaient complètement aveugles concernant leur situation. Ils étaient en train de croire qu'ils servaient Dieu, qu'ils étaient des enfants d'Abraham, des enfants de Moïse, des descendants de Moïse, ce qu'ils étaient selon la chair. Mais Dieu a dit, ça c'est de l'aveuglement, de croire qu'on est bien. Le fait de se sentir bien parce qu'on va à l'église, parce qu'on prie, parce qu'on lit la Bible, et on peut quelquefois lire encore plus, ou prier encore plus chez soi pour se sentir encore mieux, eh bien, ce n'est pas ça qui fait qu'on est libéré de l'aveuglement. Ça peut nous aveugler. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir la rencontre avec Jésus, et c'est ça qui ouvre les yeux. Vous savez que Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, il a eu les yeux ouverts. Bien sûr, il est dit qu'il est devenu aveugle, mais c'est là où il a eu les yeux ouverts sur sa véritable situation. Un homme irréprochable à l'égard de la loi. Recomprenez ce que ça voulait dire. Ça voulait dire qu'on l'a instruit depuis qu'il était enfant sur la parole de Dieu et il a obéi, il était un modèle. Il a été au-delà même de ce qui était demandé parce qu'il était pharisien et les pharisiens obéissaient à la loi de manière stricte. Et ils ajoutaient un peu plus pour être sûrs de donner plus à Dieu que ce que Dieu demandait. Et pour l'apôtre Paul, pour Saul de Tarse plutôt, il y avait cette conviction, je suis bien, je vais même, Seigneur, pour toi, je vais, quand il disait Seigneur, c'était son Dieu, je vais à Damas et je vais enfermer ces chrétiens ou persécuter ces chrétiens qui sont en train de déranger les commandements que tu as donnés il y a longtemps à Moïse. Et il devait se sentir bien, il devait se sentir en train d'accomplir la mission de Dieu. Mais Dieu a ouvert ses yeux sur le chemin de Damas et il est devenu aveugle immédiatement pendant 3 jours et 3 nuits. Mais Dieu a ouvert ses yeux sur sa situation. Il a pris conscience qu'il était pécheur. Il a pris conscience que ce qu'il croyait être bon dans sa vie n'était que offense contre Dieu. Et Dieu l'a changé. On dit que John Newton était un esclavagiste qui était chrétien de nom, parce que presque tout le monde en Angleterre était chrétien, de nom en tout cas. Mais il était chrétien, esclavagiste. Ça voulait dire quoi? Si c'est ça le christianisme, ça voulait dire je suis disciple de Christ, esclavagiste. Ça ne va pas trop ensemble. Mais Dieu a changé sa vie un jour. D'une manière remarquable, il a pris conscience de son péché. Et quand il a pris conscience qu'il n'était pas chrétien, même s'il allait dans une église dite chrétienne, même s'il avait des pratiques chrétiennes, probablement priait-il avant les repas, probablement priait-il avant les traversées en galère, que Dieu bénisse sa traversée. Il n'était pas chrétien. Il a pris conscience de ça et Dieu a changé sa vie. Il est devenu aveugle aussi. Mais il a écrit, il a laissé, comme vous savez, ses traces dans ce chant de Amazing Grace. Il a laissé cette trace de j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Parce que l'aveuglement physique était la contrepartie de cette révélation, de cette guérison de l'aveuglement spirituel. Et le Seigneur veut toucher nos yeux ce matin pour qu'on voie notre état. Pour que je voie mon propre état. Et au lieu de se satisfaire de soi, au lieu de dire voilà, je suis bien, je suis satisfaisant aux yeux de Dieu, Dieu doit être content de moi, Dieu doit m'accepter, eh bien de pleurer sous sa propre misère, mais sincèrement, et pas mettre en cause quelqu'un d'autre. Seigneur, tu sais que je suis pécheur, que je fais des choses que je ne dois pas faire, mais c'est pas neuf, c'est à cause, tu comprends la situation, tu sais ce qu'on m'a fait. Si vous êtes en train de dire ça, vous n'êtes pas en train de vous repentir du tout. La repentance véritable, c'est Seigneur, c'est moi qui suis coupable, c'est moi qui suis pécheur. Et même si vous sentez que on vous a offensé ou qu'on a fait du mal contre vous, il y a des gens qui ont des lourds passés qui ont connu des choses épouvantables dans leur vie. Et ils ont du mal à pardonner à leur père, à leur mère. Et le Seigneur veut que ces personnes soient libérées ce matin. Tout ce que Jésus veut, c'est la libération. Il ne veut pas nous rendre esclaves de la loi, au contraire, il veut nous libérer de l'influence de la loi pour qu'il dirige nos vies. Il veut nous donner l'Esprit de Dieu. Et il y a des gens qui ont du mal à pardonner. Mais si vous dites, mais Seigneur, tu vois ce qu'on m'a fait, et tu sais que c'est trop dur, vous n'êtes pas en train de demander la délivrance, vous êtes en train de retenir, de garder en vous ce problème jusqu'à la prochaine fois où vous pleurez sur votre situation, et Dieu attendra le moment où vous êtes prêt à tout lâcher, en disant, Seigneur, c'est de toi que j'ai besoin, c'est moi qui suis pécheur. Ce qu'on m'a fait, je le ferai très facilement à quelqu'un d'autre, si je t'avais pas connu. ou si j'avais pas eu l'éducation que j'ai reçue. Le Seigneur veut nous guérir ce matin de cet apitoiement sur soi-même. C'est l'œuvre du Saint-Esprit quand quelqu'un peut louer le Seigneur sans aucune retenue sur ce que Dieu a fait pour cette personne, en disant « Seigneur, je suis tellement heureux de te connaître. » Si le Seigneur agit, vous savez, l'apôtre Paul n'a pas commencé à dire « Oh, c'est... j'ai eu un choc sur le chemin de Damas. » Ou bien « c'est pas facile parce que j'étais juif, connu, très, très apprécié, et maintenant je deviens un pauvre chrétien. Je dois même me justifier auprès des chrétiens, c'est pas marrant. Parce que je dois aller dire aux chrétiens « Non, c'est vrai, hein, je suis vraiment chrétien. » Vous savez, c'est terrible dans les pays où il y a la persécution, quand il y a quelqu'un qui vient et qui dit « Voilà, on s'est converti, on veut se convertir. » La question qui se pose tout de suite, c'est « Est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un faux ?» Et il devait donc, chez les Juifs, il était commencé à susciter la colère, et ensuite, chez les chrétiens, il n'était pas accepté. Donc il avait des sujets probablement d'être malheureux, mais il était tellement heureux d'être libéré. L'aveugle dans Jean chapitre 9, il était tellement heureux que même si les Juifs commençaient à lui casser les pieds avec leurs questions, et s'il ne comprenait plus rien, il pouvait dire « Je sais, une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Mais on est centré sur soi-même. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas être libre. Le Seigneur, dans Romains chapitre 7, nous compare la relation avec l'Esprit de Dieu comme celle d'un mariage. Et il est dit que, en fait, on ne peut pas, il est dit au début du chapitre qu'on est en quelque sorte en alliance avec la loi de par notre naissance pécheresse. Mais on a besoin qu'il y ait une mort qui se passe pour pouvoir être allié avec Christ. C'est-à-dire, je ne peux pas être allié avec Christ, je ne peux pas faire alliance avec Christ s'il n'y a pas d'abord cette alliance avec la loi qui meurt. Et la loi ne va pas mourir. Ce qui va mourir, c'est moi. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour que cette alliance avec Christ se fasse pleinement? Ou est-ce qu'on est centré sur soi? Il est dit ici que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Est-ce qu'on est revêtu ce matin des vêtements du salut? Est-ce qu'on peut dire ce matin, il m'a revêtu, il m'a lavé, il m'a donné des habits neufs? Vous savez, quand le fils prodigue est rentré à la maison, le père n'a pas dit, écoute, ça va pas. Tu es parti, il faut d'abord qu'on règle, et quand tu auras réglé, quand tu te seras humilié, tu vas pouvoir rentrer dans la maison. Le Père s'est jeté dans les bras, mais est-ce que vous voyez le message qu'il y a derrière? Le Père qui se jette dans les bras, c'est une relation de Père et de Fils. Et nous, on en considère que Dieu est sévère, que Dieu va nous dire, bon, c'est quoi ça, ce que tu as fait? Mais le Père s'est jeté dans les bras du Fils. Il ne lui a pas dit « Tu sens mauvais, tu es sale. Ma maison, elle est belle. Tu ne peux pas rentrer à moins de te changer. » Il a pris son Fils. Il lui a dit, il lui a revêtu un vêtement de salut, d'acceptation, de pardon. Et c'est ça le message de l'Évangile ce matin. On pense qu'on est revêtu, on pense qu'on a mis nos habits de dimanche, on a mis nos habits de bonnes œuvres, de bonnes intentions, de bonnes religions. On a bien prié toute la semaine, on a bien lu la Bible toute la semaine. On est bien au Seigneur et on est revêtu dignement. Mais le Seigneur n'a que faire de nos habits et on pense être habillé, mais en fait on est nu. Parce qu'on n'est pas couvert par les vêtements que le Seigneur veut nous donner. On est pauvre alors qu'on croit être riche. Mais le Seigneur, au verset 19, dit « Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Et c'est ça le message aujourd'hui, c'est que le Seigneur châtie ceux qu'il aime, comme un père châtie son fils qu'il aime ou sa fille qu'il aime. Si vous êtes châtié du Seigneur ce matin, si vous êtes dans la souffrance, pour quelque raison que ce soit, c'est parce que Dieu est en train de vous travailler. C'est parce qu'il vous aime. Et il ne vous aime pas parce que vous êtes bien, il vous aime parce que vous n'êtes pas bien. Et ça, c'est important de le dire. On a toujours le sentiment que Dieu nous aime parce qu'on a quelque chose de spécial. Alors que c'est lui qui nous a créés. Donc si on a quelque chose de spécial, c'est qu'on a été créé par Dieu. Mais vous priez pour quelqu'un, Dieu répond à la prière. Il m'a répondu. Il n'a pas répondu aux autres. Ils avaient prié avant et ça n'a pas marché. Moi, il a répondu à ma prière. Je dois avoir quelque chose de spécial. Vous avez quelque chose de spécial si c'est la réaction que vous avez. Et la chose spéciale que vous avez, c'est que vous avez besoin de repentance. On a besoin de se repentir profondément devant Dieu. Parce qu'on voit l'amour de Dieu à notre égard, alors que nous, on l'a méprisé, alors que nous, on était tiède, on a mélangé. On a fait rentrer de la saleté en même temps que sa pureté. On a fait le mélange et on a dit, c'était un peu trop sale cette semaine, donc on va mettre un peu plus de eau propre, ça fera un mélange acceptable. Et Dieu nous aime cependant. Si vous êtes châtié ce matin, c'est parce que Dieu vous aime. Mais qu'allez-vous faire? Que vais-je faire de cet amour? Est-ce que je vais le mépriser? Est-ce que je vais dire, Seigneur, je suis pécheur, tu ne peux pas me pardonner? Ou est-ce que nous allons accepter cet amour, rentrer dans cet amour de Dieu et dire, voilà Seigneur, je te donne ma vie, maintenant même. Je me donne à toi, et donc du zèle, et repens-toi. Le zèle, ça veut dire, oui, je vais prendre la force qui me reste et me lever et dire, Seigneur, je me repens. Je fais acte de repentance, je veux changer de vie. Je veux que ça change dans ce domaine, comme a dit Laurence tout à l'heure, exactement. Je veux que ça change. Si vous commencez à dire après, oui, mais quand même, ce qu'on m'a fait, c'était quand même pas bien. Alors vous n'êtes pas en train de vous repentir. Vous êtes en train de commencer à vous repentir et vous dites, ouais, mais quand même, je peux pas oublier ça, il faut que je regarde ça. Et la repentance est finie. La repentance, c'est de dire, Seigneur, je sais comment je suis. Je sais comment je pourrais être. Tout le mal le plus exécrable, les choses les plus sales, les plus terribles qui ont pu être faites contre moi, j'aurais pu les faire. Quand vous voyez la situation des hommes qui violent, par exemple, qui sont multirécidivistes, on dit ces gens-là, c'est sale type. Bien sûr que leur comportement est extrêmement sale et par conséquent, ils sont des sales, ils sont salis par leur péché. Mais ces gens, si vous aviez connu la même éducation parfois que ces personnes-là, vous auriez fait la même chose et peut-être pire. Quand le Seigneur nous ouvre les yeux sur notre condition, on n'a plus le temps de regarder les problèmes qui se produisent chez les autres. C'est quand le cœur est fermé, quand on est convaincu qu'on va bien, quand on croit riche, revêtu et voyant, que, eh bien, on voit chez les autres et on ne voit pas chez nous qu'on a le même problème. Et le Seigneur dit, et donc du zèle et repens-toi, voici je me tiens à la porte et je frappe. Donc ce matin le Seigneur frappe à la porte de nos vies. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a plusieurs, je me rappelle mon père visiter une famille, il a visité, bien sûr si c'était mon père, c'était strictement, il y avait de fortes chances que c'était des familles... vraiment bizarre. Je veux dire, on peut écrire des livres sur les histoires qu'il a connues. Mais, il visitait une famille et quand il a tapé à la porte, il entendait les vers qui se réunissaient en grande catastrophe. Et les gens mettaient pas mal de temps avant de répondre. Et ils ouvraient la porte, ils disaient: Ah, c'est vous. Mais ils avaient vu par la fenêtre que c'était lui. Et bien sûr, il fallait cacher les bouteilles de vin, cacher le verre, les verres qui avaient contenu du vin. Mais on peut avoir cette réaction. On peut faire aussi le mort, n'est-ce pas? Quand on tape à la porte, on ne fait pas de bruit pour ne pas répondre. Mais on peut aussi répondre. Et ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? Le Seigneur dit: Voici, je me tiens à la porte. Et je crois que c'est une parole générale. Ce n'est pas tiré. Ce n'est pas adressé à l'église de Laodicée à ce moment-là et seulement à l'église de Laodicée. C'est évidemment le message de l'évangile. Je peux le généraliser. Ce n'est pas limité à une église. C'est limité à l'humanité, mais individuellement. Pour chacun, il se tient à la porte et il frappe. Il nous appelle ce matin. Il voudrait qu'on ouvre la porte. Et si on ouvre la porte, il dit qu'il vient et il s'installe à notre table pour manger avec nous. Le missionnaire a touché le cœur d'un brigand le plus dur et le plus méchant. Elle était d'un milieu aisé, donc ne croyez pas, si vous venez d'un milieu aisé, que le Seigneur ne peut pas vous utiliser, il peut vous utiliser. C'est plus dur pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Mais cette missionnaire est allée dans l'antre, dans la prison d'un de ces durs. Et comment elle, une jolie jeune dame, pouvait-elle, bien habillée, propre, pouvait-elle toucher le cœur d'une brute qui était devant elle? Et le Seigneur lui a montré, et elle était prête à le faire, elle avait soif. Donc elle lui dit: Est-ce que je peux boire dans votre verre? Le verre était dégoûtant. Elle a bu dans ce verre. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Mais c'est ça qui a touché le cœur de cet homme. C'était la première fois qu'on prenait quelque chose de lui et qu'on en profitait, qu'il faisait du bien et qu'on touchait même, qu'on n'avait pas les pincettes pour toucher son matériel. Je sais qu'un clochard irlandais du nom de Willie Mullen, quand il s'est converti, il a dit qu'il s'est converti à l'âge de 25 ans. Depuis l'âge de 13 ans, je crois, jusqu'à l'âge de 25 ans, il a dormi dehors. Il n'a jamais dormi à l'intérieur. En Irlande, il pleut environ 365 jours par an. Et il a dormi tout le temps dehors. Et il était, vous pouvez imaginer, à peu près 10, 12 ans, sans être lavé, quasiment. Et le Seigneur l'a rencontré sur le chemin, comme le Saul de Tarse. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Il a rencontré Jésus, il est tombé à genoux. Pendant des heures, il a pleuré pour son péché. Et quand il est allé sur le chemin, après, il a dit au premier passant: J'ai rencontré Jésus dans le champ. Et la personne s'est sauvée en courant. Alors il a dit: Mais il faut que je dise à quelqu'un d'autre. Il a vu quelqu'un d'autre arriver, il lui a dit: J'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai rencontré le Seigneur dans le champ. Et c'était un chrétien, ce deuxième, qui l'a invité à l'église le dimanche. Et ce qui a bouleversé cet homme, Willie Mullen, c'est que il s'est assis et une petite jeune fille est venue s'asseoir à côté de lui pour lui montrer les chants, sur le recueil de chants, pour lui montrer le passage qui est en train d'être lu dans la Bible. Il n'avait jamais connu ça. Sachez que ce Willie Mullen s'est donné à l'âge de 25 ans au Seigneur parce que sa maman a prié, intercédé pour lui. Quand il était jeune, oui c'est ça, c'est de 15 ans à 25 ans qu'il a vécu dehors. À partir de l'âge de 13 ans, il est rentré tous les soirs, complètement ivre à la maison. Et sa mère, tout ce qu'il entendait quand il ouvrait la porte, c'est sa mère qui disait: Seigneur, sauve Willie. Et elle est décédée d'épuisement avant qu'il ait 25 ans. Mais le Seigneur travailler, a répondu à la prière de cette maman. Et si vous êtes dans cette situation ce matin, vous pouvez savoir que Dieu répond. Est-ce que si vous entendez la voix du Seigneur, vous ouvrez la porte ce matin et vous dites: Seigneur, je veux que aujourd'hui, ce dimanche 16 août, ce soit un nouveau départ pour ma vie. Je m'engage à essayer de te suivre. Dites pas: je vais te suivre jusqu'au bout. C'est ce que Simon Pierre a dit et Dieu lui a montré, Jésus lui a montré qu'il fallait pas parler comme ça. Mais si vous dites: Seigneur, ce matin, je voudrais te suivre. J'en ai pas la force, mais je veux que tu te révèles à moi. Eh bien, vous le faites le plus sérieusement possible. Et le Seigneur va changer votre vie, va ouvrir vos yeux sur votre besoin de Christ. Il va remplir votre vie de son esprit. Vous le dites à quelqu'un après. C'est important de le verbaliser, le déclarer. Dire à quelqu'un qui est au Seigneur, de dire: j'ai donné ma vie au Seigneur. Donner sa vie au Seigneur, c'est pas se convertir seulement. C'est aussi quand on est chrétien de 50 ans. Je veux dire 50 ans de christianisme derrière. Ou des années de dire: Seigneur, je veux que tu changes cette chose dans ma vie. Je veux que tu viennes. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur va prendre notre saleté, nos verres sales, nos assiettes sales. C'est pas la peine de dire: je vais comme Marthe, il faut que ce soit propre, il faut que ça brille, c'est le Seigneur. Vous donnez ce que vous avez et forcément ça sera sale puisque c'est ce que vous avez. Le Seigneur, prend-le ce matin. Tout ce que je peux t'offrir pour le souper, c'est de la saleté. Et le Seigneur va dire: mais moi je t'offre mon corps et mon sang. Je t'offre mon corps qui a été brisé sur la croix et je t'offre mon sang qui a coulé pour toi. Et c'est là où nos vies commencent à changer. Amen. Alors faites-le réellement chez vous et dites-le après, un frère, une sœur. Dire: voilà, j'ai pris la décision et je voudrais concrétiser ça. Vous passerez par les eaux du baptême, même s'il faut parfois attendre. C'est difficile de baptiser avec un masque, mais on le fera. On le fera dehors si ça maintient. Et on ne peut pas attendre novembre pour des raisons qu'on expliquera une autre fois. Donc, on le fera dehors s'il le faut. Mais on le fera parce que le baptême, c'est un engagement important devant Dieu. On va prier et vous libérer de vos masques. Seigneur, merci pour la grâce infinie de Dieu qui se révèle, qui nous rend parfois aveugles physiquement et qui nous rend voyants sur notre état de misère. Et Seigneur, ce matin, qu'il y ait des miracles dans nos vies, qu'il y ait des miracles dans ma vie. Qu'il y ait des miracles dans la vie de chacun ici, de Seigneur, nouvelle naissance, nouveau commencement, nouveau départ. De renoncer à soi-même pour que tu aies la place, Seigneur, que ce soit toi qui organise le souper et pas nous. Nous pouvons offrir que notre misère et notre saleté. Mais toi, Seigneur, tu donnes ton sang, tu donnes ton corps. Et Seigneur, ce matin, viens agir puissamment. Seigneur, je te prie pour ça. Que cette rentrée 2020, cette rentrée scolaire, ne soit pas comme les autres. Soit vraiment avec l'œuvre du Saint-Esprit dans les vies. Que l'Église soit travaillée par l'Esprit de Dieu, parce que chaque individu de l'Église est travaillé par l'Esprit de Dieu. Amen.